Disons que elle questionne, mais là je me répète, comme d'autres peintres surréalistes questionnent encore aujourd'hui, je dirais comme toute peinture qui a eu son poids et qui va au-delà en fait de l'esbrouf ou disons au-delà de son inscription purement dans l'époque. Pourquoi il est si populaire? C'est parce qu'en fait il a une virtuosité très classique. Lui, il se référait aux grands classiques, il se référait aussi à l'art pompier néoclassique du 19e siècle, c'était art académique qui poussait en fait la technique où la technique prédominait sur en fait l'invention par la forme et la couleur. Et dans toutes ces peintures, il y a des choses qui sont naturellement absolument curieuses. Il a, nous avons ici devant les yeux justement cette peinture avec les montres molles. Maintenant, ça touche au sens. Quand on dit une montre, on voit quelque chose de rigide, de précis. Et là, on voit tout d'un coup des montres qui prennent la forme du support sur lequel elles sont posées. C'est totalement extravagant. L'auditeur qui n'a jamais vu ça, il peut parfaitement s'imaginer. C'est comme une patte, mais bon, qui a la forme d'une montre. Et on se pose des tas de questions par rapport à ça. Et Dali n'a jamais été très explicite par rapport à ses œuvres. Il voulait garder un espèce de mystère là autour. Et je tenterai justement, en fait, dans un premier tableau, d'essayer d'interroger le tableau sous ses différents aspects, à quoi il fait référence, directement à Dali, le paysage dans lequel il est né, certains éléments comme les fourmis, etc., l'histoire de du temps, puisqu'en fait la montre, aussi molle soit-elle, ça reste un indicateur de temps. Donc je ferai aussi référence là à la philosophie, à ceux qui se sont intéressés par rapport à ça. Et on voit en fait avec Dali qu'il a touché quelque chose de manière au niveau sensible, avec sa propre sensibilité, avec ses fantasmes, avec ses rêves. Il traduit quelque chose que lui-même, et ça c'est propre à tous les artistes, de créer quelque chose et ensuite on découvre de l'extérieur qu'il y a des implications qui vont dans des sens que l'artiste lui-même, dont l'artiste lui-même n'était pas conscient. Et ça c'est assez frappant chez Dali.
Vous allez donc présenter cette conférence mardi au Musée jurassien d'art et d'histoire. Comment elle va évoluer, cette conférence, et comment vous l'avez préparée? Quel sera le fil conducteur? Parce que chez Dali et chez les surréalistes, des fils conducteurs, il y en a beaucoup.
Le fil conducteur ou la structure de la conférence, puisqu'en fait, Dali, c'est le point central, ou en tout cas le point de départ. Je vais tout de suite plonger les auditeurs, spectateurs dans un tableau de Dali, ça veut dire dans le monde de Dali. Et ça, j'essayerai de le décortiquer. Dans une deuxième phase, disons que j'essayerai de montrer ce qui se passait également à l'époque. Dali est né en 1904 et entre 1904, oui, on peut dire, et 1924, date du premier manifeste surréaliste, ces 20 années-là sont des années extraordinairement importantes parce qu'en fait, toutes les révolutions artistiques plastiques se sont produites durant ce temps-là. Cubisme, abstraction, dadaïsme, surréalisme sont apparus à ce moment-là, aussi d'autres phénomènes, et c'est à partir de ça que tout l'art du XXe siècle s'est décliné. Il existe même encore aujourd'hui, il y a des influences, si je pense à Marcel Duchamp, dont je parlerai également, avec son urinoir exposé, avec son porte-bouteille, etc. L'invention du ready-made, ça, c'est dans cette époque. C'est la raison pour laquelle je vais montrer des tableaux qui font référence à ces différents mouvements à l'époque pour qu'on voit, en fait, que le surréalisme n'est pas seul, que Dali n'est pas seul, qu'il y a d'autres mouvements, mais qu'il y a une effervescence extraordinaire. Chez Dali, par exemple, il est clair qu'il avait même rencontré Freud plus tard, dans les années 30, si je ne fais erreur. Et c'est évident que Freud, avec sa théorie de l'inconscient, a eu une influence sur Dali et et pas simplement une influence, mais c'est un phénomène de l'époque, c'est autour de 1905, ça a été publié, comme la théorie de la relativité d'Einstein, qui apparaît également dans ces années-là, autour de 1905, elle aura une influence indirecte, en fait, sur le cubisme. C'est pas elle, c'est pas les cubistes qui sont des spécialistes, par exemple, d'Einstein, mais ce qu'elle remet en cause, ces théories dans le domaine de la physique, c'est exactement ce que remettent en cause, en fait, les plasticiens à cette époque-là. Et tous ces éléments sont des éléments, en fait, de l'époque. Donc, l'histoire de l'époque, les événements, les émergences de nouvelles idées à travers la science, et d'autres phénomènes ont une influence quelquefois directe, mais très souvent indirecte sur la production artistique, ça veut dire sur les artistes qui, en fait, ont mené le bal, en quelque sorte, à cette époque-là.